Vous allez écouter l'émission Fréquence Geek présentée par Bastien sur RTVFM.
Et salut à tous pour cette nouvelle émission du Fréquence Geek, ici Bastien qui vous parle, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui donc nous allons vous parler en premier lieu des jeux vidéo avec le partenariat entre Sony et Microsoft, ensuite j'enchaînerai avec le nouveau moteur graphique de Capcom, puis je dédierai la session manga, film, animation à une critique sur le film Détective Pikachu. Puis nous irons ensuite explorer les sorties en vrac et enfin les événements. Et tout de suite, c'est la rubrique jeux vidéo avec le partenariat de Sony et Microsoft main dans la main. Cela a déjà été annoncé durant le mois suivant et c'est officiel. Le papa de la Xbox et celui de la PlayStation vont travailler ensemble dans le but d'aménager et d'explorer de nouveaux concepts et améliorations technologiques numériques, à commencer par le cloud. La particularité de ce communiqué publié conjointement jeudi par Microsoft et Sony durant le mois de mai avait de quoi surprendre toute la communauté du virtuel. Cela n'a pas été précédé d'une autre rumeur à l'heure actuelle où les insiders ont souvent été capables d'ébruiter les discussions les plus secrètes des deux plus gros PDG de la boîte. Et pour cause, la direction de Sony basée à Tokyo s'est manifestement bien gardée de discuter de ce partenariat avec ses employés pour sa propre division du jeu vidéo. Sony Interactive Entertainment, de son côté, dont le siège se trouve aujourd'hui à Santa Meto en Californie, c'est ce qu'affirment en tout cas les journalistes de Boomerang après avoir discuté des sources proches du dossier. Selon ce rapport, les pourparlers entre Sony et Microsoft ont principalement eu lieu sans impliquer la filiale de PlayStation. La conséquence est que les employés du SIE auraient été les premiers surpris par l'alliance stratégique annoncée jeudi. L'équipe de la division du jeu vidéo a été prise par surprise. Les managers ont dû calmer les employés pour assurer que ces derniers n'avaient rien à craindre et que les plans concernant la console de la nouvelle génération n'ont pas changé. On a d'ailleurs également rapporté d'autres sources à Bloomberg, car au vu que l'exécuteur lui en revanche fait le rapprochement entre Sony et Microsoft, il est également important de noter que tout ceci a été bien perçu sur le marché. En effet, vendredi, l'action de Sony Corporation bondissait de 9,9% des analystes ayant apprécié la capacité du président Kenshiro Yoshida à s'adapter rapidement aux évolutions du marché du numérique. Bien qu'ayant investi dans le cloud gaming depuis 2012 avec le rachat de Gakai pour 30 millions d'euros, la force de frappe de Sony en la matière reste en fait assez rédhibitoire comparé aux géants du cloud actuel. Alors ça y est, est-ce qu'on va tous passer au streaming, me demanderiez-vous. En adoptant la plateforme Azure de Microsoft, Sony fait en sorte de ne pas se retrouver démuni au cas où le cloud gaming deviendrait une pierre angulaire dans le paysage du jeu vidéo de demain. Actuellement, ce n'est en toute évidence pas le cas. Le PlayStation Now ne comporte que 700 000 abonnés à travers le monde, et ce alors que le service ne se limite même plus au streaming désormais. Selon les prévisions de la société de renseignement économique IHS Markit, le cloud gaming représenterait encore que 2% du marché du jeu vidéo global en 2030. Selon ce que nous a affirmé le porte-parole de Sony, et qui a été d'ailleurs confié à Bloomberg, les discussions avec Microsoft concernant une alliance autour des technologies du cloud gaming sont programmés pour débuter, selon ce qu'un porte-parole de Sony a confié à Bloomberg. Les discussions avec Microsoft concernant une alliance autour des technologies de cloud gaming ont débuté pourtant l'an dernier. C'est tout pour cette session jeux vidéo. Maintenant, je vais vous laisser en compagnie d'une petite pause de musique et je vous retrouve à tout à l'heure pour la suite du Fréquence Geek.
Bien coupé, décalé. Les gens sont en train de couper, décalé là-bas. Oh la prudence, ça aussi ça inquiète les gens. Coupé, coupé, ils sont en train de gâter nos pieds là-bas. Coupé, décalé. Il faut travailler. Coupé, décalé.
Le monde est ma maison.
Et nous sommes de retour pour la suite du Fréquence Geek. C'est toujours Bastien qui vous parle, à vous, chers auditeurs, chers auditrices. Et maintenant, je vais vous parler de ma critique concernant le film Pokémon Détective Pikachu pour cette session manga, film et animation. Alors déjà sorti en salle depuis le 8 mai 2019, Pokémon Détective Pikachu a su convaincre le public par sa comédie noire, solide et nostalgique. Conscient de la malédiction qui pèse depuis toujours sur les films inspirés des jeux vidéo, le réalisateur Bob Letterman a finalement choisi de baser son histoire non pas sur les aventures d'un jeune héros prêt à tout pour devenir le meilleur dresseur et se battre sans répit au passage, mais plutôt sur celle d'un jeune détective et de son Pokémon. En effet, de par son respect pour les lignes scénaristiques du jeu dont il est issu et d'une fin ajoutée au scénario initial qui parvient à se fondre dans le décor avec brio, cela a permis à dissiper les derniers soupçons de scepticisme qui avaient pu rester dans la caboche de certains spectateurs jusqu'à la sortie du film en salle. Le rendu graphique des Pokémon est vraiment travaillé et on peut voir aisément que les équipes de tournage se sont mises en quatre pour donner aux spectateurs un rendu adéquat de ce que serait un Pokémon dans la réalité, proposant du même coup des plans panoramiques d'une splendeur qui n'est pas sans rappeler celle des films Avatar. Cependant, est-ce que le film est aussi bon sur le plan scénaristique que sur le plan graphique, me demanderiez-vous ? Eh bien non. Non. Parce que comme tout blockbuster qui se respecte, l'intrigue du long métrage ne constitue clairement pas le point fort principal du film. Les jeux des acteurs ne rassurent pas forcément les spectateurs durant les 5 premières minutes du film. La vie à Rim City est machinienne, tout en se targuant de quelques raccourcis un peu trop simplistes, et l'issue du film n'est pas vraiment une énorme surprise à tel point que la fin se voit venir des kilomètres même sans avoir nécessairement joué au jeu original. Toutefois, l'histoire est une belle mise en scène et Bob Letterman reste malgré tout épique, drôle et est capable de retranscrire parfaitement cette ligne de gestuelle, de dialogue. Toutefois, la mise en scène réalisée par Bob Letterman reste malgré tout épique, drôle et elle s'inscrit parfaitement bien dans la lignée directe de ce que l'on peut attendre d'un film Pokémon. Donc au final, malgré une bonne intrigue perfectible et un jeu d'acteur assez lent à se positionner correctement sur le début du film, mais qui fort heureusement parvient à s'accorder sur tout le reste de la durée globale du long métrage et une conclusion cinéaste prévisible, Pokémon Détective Pikachu s'imposera tout de même grâce à deux atouts de taille, son humour et sa direction artistique. Graphiquement, le film est une véritable prouesse technique. Le trailer nous en a déjà mis plein les mirettes, mais force est de constater que le rendu des Pokémon qui n'avait jusqu'à présent été jamais vraiment mis sur le devant de la scène eut droit à une transposition dans le monde réel et reste bluffant en tout point du début à la fin. Concernant l'humour, Bob Letterman n'est pas un étranger du genre. Je vous le rappelle, l'un de ses plus gros succès dans l'animation a été de travailler en 2001 sur Shrek, qui reste encore aujourd'hui l'un des films d'animation les plus drôles de sa génération. Pokémon Détective Pikachu est donc un film à regarder tranquillement au moins une fois, que l'on soit ou non pas fan des bestioles de poche nippones, selon toute vraisemblance. Ce qui est donc une très belle revanche sur le ratage complet de ce qu'avait été le film Mario des années 90. Du coup, bravo Legendary Pictures, bravo The Pokémon Company International, et bravo Lato pour cette super production geek. C'est maintenant une nouvelle pause musicale et je vous retrouve après pour les sorties en vrac et les événements. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, de retour poste du Fréquence Geek, c'est toujours Bastien qui vous parle et je vais maintenant vous évoquer la première sortie en vrac du mois avec Crash Team Racing Nitro Fuel. Alors, jeu vidéo de course développé par Benox pour la sortie prévue de 2019. Il est annoncé lors de la cérémonie Game Awards en décembre 2018 et sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 21 juin 2019. Il s'agit d'un remaster de Crash Team Racing paru en 1999 sur PS1. Les mêmes modes de jeu y seront présents, à savoir l'aventure, l'arcade, le solo, la contre-la-montre et la bataille. Le jeu sera également jouable en mode multijoueur, à la fois en local et sur écran partagé ou encore en ligne. Pour anecdote, Crash Team Racing était le quatrième jeu de la franchise Crash Bandicoot à être sorti sur PlayStation 1, en plus d'être le premier titre de la série appartenant au genre de course et le dernier à être développé par Naughty Dog. Le scénario du jeu se focalise sur les efforts d'une équipe composée de personnages issus de la série Crash Bandicoot, qui doit concourir contre l'égocentrique Nitroxoxide et ses sbires afin de sauver leur planète de la destruction de ce dernier. Dans ce jeu, les joueurs peuvent contrôler l'un des 14 personnages de la série, dont seuls 8 sont disponibles au début du jeu. Durant les courses, les joueurs peuvent tirer avantage de plusieurs objets leur permettant de gagner de précieuses secondes. Ce sera donc le retour sur ce scénario totalement allumé que les plus nostalgiques d'entre nous pourront profiter de ce remaster au prix de 30€ dans les points de vente participants. On poursuit avec Magic The Gathering, l'horizon du moderne. Sortie prévue pour le 14 juin 2019, Modern Horizon est la toute nouvelle édition de cartes à jouer Magic créée par Wizard. Dans cette édition spécialement conçue pour les formats modernes, découvrez la toute première édition éditant de toutes nouvelles cartes destinées directement au moderne. Ces cartes ne seront pas légales en standard et introduiront dans le moderne d'anciennes cartes qui n'y figuraient pas jusque-là. Pour information, le format moderne est un format de jeu qui diffère du format standard habituel. En effet, là où le standard se limite aux éditions de cartes apparues dans l'année, le moderne lui recouvre toute la méta du jeu en y autorisant l'intégration de toutes les cartes sorties à partir de la 5ème édition. Le prix des boosters est de 15 cartes et de 3,50€ et les cartes ne peuvent pas être jouées en format standard. Ensuite, Yu-Gi-Oh! Starter Deck Yu-Gi Return. Toujours chez la Wizard Corporation, après l'édition Horizon du moderne chez Magic, ce sera au tour des jeux de cartes à jouer Yu-Gi-Oh! De faire parler d'elle avec une nouvelle réédition du deck de démarrage du Starter Deck de Yugi Muto, le célèbre héros de la première saison de l'anime portant le même nom que celui des jeux de cartes à jouer. Ce deck de démarrage est un préconstruit accessible et spécialement configuré pour les débutants désireux de se mettre au jeu de cartes, ce qui inclut un tapis de jeu et un fascicule de règles, en plus d'un deck composé de 50 cartes à jouer pour le prix moyen de 11€ dès le 25 juin dans les points de vente participants. Et enfin, nous allons passer aux événements. Alors déjà, je vais vous parler de A Place to Geek 2019, qui est depuis maintenant 2015. A Place to Geek propose un séjour de vacances dédié aux cultures ludiques et à l'imaginaire du domaine de la laine, la 17 rue Loudun du Bureuil à Ancerre-la-Giro, qu'aussi et chaleureux du domaine de la laine en Charente-Maritime. Des dizaines d'activités, de jeux et de conférences et d'ateliers vous attendent entre deux plongeons de piscine, barbecue et autres moments de convivialité dans une ambiance festive et bon enfant. Ce sera donc du 5 au 12 juillet 2019 que A Place to Geek vous proposera une semaine de vacances à la campagne dans un domaine champêtre et tout confort à l'ombre des arbres et au bord de la piscine. Ce qui est déjà très sympa, et si en plus on vous y propose de faire des tournois de Quidditch, de jouer aux jeux de rôle, de découvrir l'art subtil du combat au sabre laser, de vous faire des ateliers Totoro, des conférences de la culture geek, de vous affronter en duel de nerf, ou encore tester des protos de jeux de société, le tout sur un fond d'un JDR grandeur de nature, permanent et complètement déjanté avec des events survoltés et des tranches de rire épiques. La Place to Geek, c'est tout ça, et même bien plus encore. Vous en rêviez, ils l'ont fait et ça dure depuis maintenant 4 ans. Pour plus d'informations sur les formules et les réservations du domaine, rendez-vous sur leur site internet www.placetogeek.com. Et enfin, la Japan Expo 2019. Eh oui, le festival de la Japan Expo s'apprête à fêter son 20e anniversaire du 4 au 7 juillet 2019 au parc des expositions de Paris Nord Villepinte. La Japan Expo reçoit chaque année de prestigieux invités et vous offre l'occasion de les rencontrer lors des séances de dédicaces, de masterclass ou autres conférences au cours desquelles ils parlent de leur travail, de leur carrière et de leur œuvre. La Japan Expo accueille ainsi des dizaines d'invités de marques, mangaka, professionnels de l'animation, chakra designer, illustrateur, créateur de jeux vidéo, producteur, musicien, chanteur, compositeur, etc. Et surtout, ne manquez pas la chance de rencontrer ces artistes de talent et d'en apprendre plus sur eux. Japan Expo vous proposera également de nombreux showcasts, jeux vidéo, projections, ateliers, cosplay, sports, arts martiaux et bien d'autres exposants à découvrir sur place. Cette année, comme je vous l'ai dit plus tôt, la Japan Expo 2019 va fêter ses 20 ans et recevra donc à cette occasion Tony Valente, l'auteur de Radiant, l'équipe du casting complet de Bioman, qui fête d'ailleurs parallèlement ses 35 ans au Japon, avec également l'équipe de France 5 qui se réunit pour fêter les 20e anniversaire de la création de ce qui peut être la première web-série française sous forme d'hommage au Super Sentai japonais. Et enfin, le légendaire Go Nagai, grand nom du manga de science-fiction et surtout bien connu pour être le papa de notre cher Goldorak. D'autres icônes seront également présentes côté musique J-Rock, telles que Mika Kobayashi, Ilu Grace ou encore VM5, et un gros concert Pixel Battle pour grossir l'événement viendra s'y ajouter, qui fournira du bon son et de la bonne punchline à vendre. Pour plus de détails sur le programme, je vous invite à visiter le site internet de la Japan Expo 2019, www.japanexpo-japon-paris.com. Et c'est ainsi que s'achève notre émission du Fréquence Geek, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Tchuss!
Vous venez d'écouter l'émission Fréquence Geek présentée par Bastien sur RTVFM.